Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Tout ce qu'ils disent sur comment la Russie est une espèce de chose ingouvernable, comment tout ça est souterrain et peut tout d'un coup exploser. Il y a tellement de choses dans Custine que enfin, c'est vraiment un miroir, mais un miroir qui reflète vraiment l'essentiel de ce qu'est la Russie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Bonjour. Un genre littéraire ancien s'est attaché à définir l'âme des peuples, pour reprendre le titre d'un vieux livre d'André Siegfried. Le principe en est de débusquer, par-delà la diversité des périodes successives, une permanence qui constituerait l'originalité intrinsèque de chaque nation. Cette entreprise est souvent aventureuse, mais elle peut être stimulante, quitte à multiplier chemin faisant les nuances et les objections. On s'est beaucoup prêté à cet exercice depuis près de deux siècles à propos de l'ouvrage fameux d'Astolphe de Custine, publié en 1843 et qui, sous le titre « La Russie » de 1839, retraçait son voyage dans cet empire quatre années plus tôt. Depuis lors, parmi les multiples traverses rencontrées par la Russie, on n'a jamais cessé de s'interroger sur une validité possiblement pérenne des observations et des réflexions que proposait Custine. La période la plus récente, celle de Poutine, redonne une nouvelle vitalité à un pareil exercice. Il est donc tentant de s'y adonner, une tentation à laquelle nous allons naturellement céder ce matin. Ce sera en compagnie de Samantha Caretti, docteur en littérature de l'Université de Caen Normandie et présidente de la Société des Amis de Custine. Avec elle, qui est passionnée par le personnage et par son œuvre, nous allons nous demander quels traits durables il est loisible de trouver d'une Russie à l'autre, dans la description de Custine, à près de deux siècles de distance. Il va s'agir des formes d'un despotisme, d'un militarisme dominateur, d'un éventuel consentement à l'oppression, de l'accueil fait aux étrangers, avec la dissimulation des réalités derrière de fausses façades. Il va s'agir d'une diplomatie toujours ombrageuse et des relations heurtées avec l'Europe occidentale, entre mimétisme et antagonisme, entre séduction et rejet, dans l'ordre de la littérature, de la société et de la culture.
Persuadez-vous bien que le Kremlin de Moscou n'est nullement ce qu'on dit qu'il est. Ce n'est pas un palais, ce n'est pas un sanctuaire national où se conservent les trésors historiques de l'Empire. C'est moins et c'est plus que tout cela. C'est tout simplement la citadelle des spectres. C'est le rêve d'un tyran. Mais c'est puissant, c'est effrayant comme la pensée d'un homme qui commande à la pensée d'un peuple. Il y a là quelque chose de disproportionné. Je vois des moyens de défense qui supposent des guerres comme il ne s'en fait plus. Héritage des temps fabuleux, où le mensonge était roi sans contrôle. Geôle, palais, sanctuaire, boulevard contre l'étranger, Bastille contre la nation, appui des tyrans, cachot des peuples. Voilà le Kremlin. Des tours de toutes les formes, rondes, carrées, à flèches aiguës, des beffrois, des donjons, des tourelles, des vedettes, des guérites sur des minarets, des clochers de toutes les hauteurs, différents de couleurs, de styles et de destinations, des palais, des dômes, des vigies, des murs crénelés, percés, des meurtrières, des machicoulis, des remparts, des fortifications de toutes sortes, des fantaisies bizarres, des inventions incompréhensibles, un kiosque à côté d'une cathédrale. Tout annonce le désordre et la violence. Tout trahit la continuelle surveillance nécessaire à la sûreté des êtres singuliers qui se condamnèrent à vivre dans ce monde surnaturel. Aussi n'approche-t-on du Kremlin qu'en frémissant. Mais ces innombrables monuments d'orgueil, de caprice, de volupté, de gloire, de piété, malgré leur variété apparente, n'expriment qu'une seule et même pensée qui domine tout ici. La guerre soutenue par la peur. Le Kremlin est sans contredit l'œuvre d'un être surhumain, mais d'un être malfaisant. La gloire dans l'esclavage. Telle est l'allégorie figurée par ce monument satanique, aussi extraordinaire en architecture que les visions de Saint-Jean sont extraordinaires en poésie. C'est l'habitation qui convient au personnage de l'Apocalypse. Habiter le Kremlin, ce n'est pas vivre, c'est se défendre. L'oppression crée la révolte. La révolte nécessite les précautions. Les précautions accroissent le danger, et de cette longue suite d'actions et de réactions naît un monstre. Le despotisme qui s'est bâti une maison à Moscou. Le Kremlin. Voilà tout.
Samantha Caretti, bonjour.
Bonjour.
Cette citation de Custine, qui est lue ici par Pierre-François Pistoriot dans une émission qui s'appelait « Poussière d'étoiles » de Franck Langlois en mars 1991, nous introduit, me semble-t-il, assez directement dans l'exercice que nous avons à affronter ce matin, c'est-à-dire le va-et-vient entre le passé et le présent.
Absolument, et c'est vrai que dès lors que des tensions entre la Russie et l'Occident se manifestent, l'ouvrage de Custine revient, et il revient donc particulièrement aujourd'hui brûlant. Et ce qui est intéressant dans cette citation, c'est l'harmonie que Custine trouve entre l'architecture et le despotisme en politique. Mais on y reviendra probablement au cours de l'émission.
Oui, le décor et l'évolution de la société et de la politique. Une guerre soutenue par la peur, dit-il.
Oui, et cela lui est d'autant plus cher que pour Custine, il le dit, sa première affection a été la crainte par la Révolution française notamment. Et lorsqu'il va en Russie, cherchant justement une alternative à la démocratie en Amérique de Tocqueville, il n'imaginait pas trouver cette peur qu'il aborait dans son pays au moment de la Révolution française.
Oui, c'est un des intérêts du livre, probablement, et c'est un des motifs de son efficacité. C'est la surprise qu'il a éprouvée, c'est le contraste entre ce qu'il souhaitait démontrer et ce qu'il a pu voir. Il dit d'ailleurs, il est vrai, j'ai mal vu, mais j'ai bien deviné. Que pensez-vous de cette formule?
Il a conscience, Custine, finalement, d'avoir était d'une certaine façon visionnaire de par la réception de son ouvrage. Et aussi, je pense qu'il y a cette extrême modestie chez Custine. Alors déjà, il faut rappeler qu'il n'a passé que 3 mois en Russie, ce qui est très court, ce qui ne l'a pas empêché d'ajouter à ses observations des témoignages, mais aussi des lectures.
75 jours.
Oui, exactement. Alors, il n'empêche que même si le voyage était court, dans ses précédents voyages, notamment en Allemagne, en 1815, il a toujours dit que finalement, il n'y avait pas besoin de passer tant de temps dans un pays pour le comprendre assez vite. Et la preuve en est avec cette Russie, c'est qu'en 3 mois, il arrive à bien deviner, et deviner au-delà même de ce 19e siècle, par-delà le 20e siècle, par-delà le 21e siècle.
Pierre Nora, qui est un de ceux qui a édité sous forme d'anthologie, qui a réédité récemment l'œuvre, parle de lui comme d'un intuitif de génie.
Oui, effectivement, Custine disait que parfois, il lui arrivait d'accéder à la vérité d'un pays par une sorte de révélation. Custine est particulièrement croyant, hein, et donc pour lui, quand il est dans un espace, il arrive à sentir un lieu, et donc à en percevoir une sorte de vérité, vérité qui va être bien sûr aidée par ses observations, sa recherche de l'exactitude et son amour passionné de la vérité.
Alors il faut que nous considérions qui nous parle, c'est-à-dire comment il a été formé, dans quel entourage de malheur au fond initial a été le sien, ce qui n'est pas probablement sans peser sur son caractère et sur ses réactions.
Absolument. Alors, Astolphe de Custine est né en 1790.
Je vous arrête un instant. Astolphe, personnage la littérature épique de l'Italie, le Roland Furieux de l'Arioste.
Absolument, et c'est vrai que c'est aussi l'une des originalités de Custine, c'est son prénom. D'ailleurs, parfois on dit Adolphe, mais non, c'est bien Astolphe. C'est sa grand-mère, Éléonore de Sabran, qui avait voulu le prénommer Astolphe. On lisait beaucoup l'Arioste en ces temps-là. Et Astolphe, dans le Roland Furieux, c'est l'ami de Roland qui va l'aider à recouvrer la raison. Et la grand-mère d'Astolphe souhaitait que cet enfant qui arrive aide à apporter à ce monde un peu de bon sens. Je pense qu'au fond, c'était une sorte de prédestination que ce prénom, parce que on le voit avec la Russie, il a essayé d'apporter un petit peu de bon sens à ce monde.
Quel milieu social ?
Eh bien, il fait partie de la plus haute aristocratie. Il est fils de Delphine de Sabran et du marquis de Custine. Mais ce qu'il faut dire en parlant d'Astolphe de Custine, c'est qu'il va vivre les premières années de sa vie dans la peur, puisqu'il naît au cœur de la tourmente révolutionnaire. Il va passer les toutes premières années de sa vie dans une cuisine avec sa bonne Nanette Malaria.
Custine dans la cuisine.
Et voilà, Custine dans la cuisine. Et malheureusement, en plus de cela, la guillotine qui va s'emparer d'abord de son grand-père, le général Moustache, donc Adam Philippe de Custine, qui est celui qui a le nom de la rue Custine, hein, c'est pas Astolphe de Custine à Paris, c'est le général Custine, qui était propriétaire de la faïencerie à Niedervillers.
Utile précision pour ses habitants.
Exactement. Et puis, son père, le marquis de Custine, en 1794, va lui aussi être guillotiné. Et sa mère va être enfermée au Carme pendant 8 mois. Il va garder de cette époque-là un traumatisme, et à juste titre. Et c'est important de le rappeler, puisque dans la Russie en 1839, les lettres 2e et 3e sont consacrées à ses souvenirs de la Révolution. Souvent, on a voulu les voir comme une sorte de digression, comme si Custine allait un petit peu à Sauze et à Gambane et qu'il changeait de sujet, au contraire. Et c'est pour ça que l'édition de classique Garnier de la Russie en 1839 de Vera Milchina me semble la plus juste, puisque c'est celle qui rend compte du texte intégral. Et on ne peut pas comprendre la Russie en 1839 si on n'a pas ces lettres 2e et 3e, puisque sinon on pourrait croire que Custine arrive en Russie comme une sorte de révolutionnaire, alors qu'au contraire, il est absolument opposé à la révolution et à l'égalité démocratique prônée notamment par Tocqueville. Donc on a besoin de cela.
Quand il sort de l'adolescence, il a la vocation, pense-t-il, d'être un écrivain, mais un écrivain du voyage. C'est Balzac qui dit qu'il est un voyageur par excellence.
Oui, absolument. Alors, il faut dire aussi que dans l'entourage d'Astolphe de Custine, il y avait un personnage particulièrement important qui est François-René de Chateaubriand. Il était l'amant, l'ami de sa mère Delphine, et ce jusqu'à la fin de la vie de Delphine de Custine. Et il a été comme une sorte de père spirituel pour Astolphe. Il l'a même encouragé dans son écriture. Il avait aussi comme ami la comtesse de Genlis, un petit peu oubliée aujourd'hui aussi. Et tous ces personnages-là vont encourager Custine à l'écriture et vont lui apporter cette sensibilité romantique, hein, peut-on le dire, même si Astolphe de Custine ne se sentirait peut-être pas proche de cette étiquette, il se dirait plus volontiers moderne. Mais quoi qu'il en soit, il rêve, dès les premières années de sa vie, il rêve de l'écriture. Pas seulement des voyages, mais aussi des romans. Mais je crois que tout est toujours lié chez Custine. Romans, voyages et mémoires. D'ailleurs, il dit que ses voyages sont ses mémoires.
Il a écrit 2 romans qui n'ont pas eu grand succès.
Alors, il y a d'abord Aloïs, en 1829, qui est paru anonymement, qui a été considéré un petit peu comme un roman de la vengeance. Il y est question de son mariage manqué avec la fille de Claire de Duras. Et Claire de Duras avait elle-même écrit Un moine du Saint-Bernard, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et puis, Le monde comme il est, Est-elle, mais qui sont de très beaux romans, mais qui n'auront pas connu de réédition. Et ne parlons pas de Romuald ou La Vocation, qui n'a pas du tout eu le succès qu'il aurait pu en espérer.
Il n'y a pas que Chateaubriand, d'ailleurs, parmi ses amitiés. C'est vraiment un monde littéraire. Il est l'ami de Victor Hugo, à qui il écrit souvent, de Sophie Gay, la mère de Delphine de Gérardin, qui est elle-même la femme du grand homme de presse, Émile de Gérardin. C'est vraiment un milieu de salon de rencontres littéraires où il forme son tempérament et où il va définir son originalité, c'est-à-dire le voyage.
Et oui, c'est toute l'ambiguïté de Custine, c'est-à-dire il dit qu'il nage entre le monde et le désert, un monde qu'il ne sait ni aimer ni haïr, et effectivement il fait partie de ce monde-là, il tient salon, Stendhal l'admire, Balzac l'apprécie, hein, c'est lui qui disait qu'il était le voyageur par excellence, et puis on a parlé des écrivains, mais il y a aussi les musiciens, Chopin était un très grand ami, on a aussi l'actrice Rachel, donc il fait partie de tout ce monde de l'époque romantique.
Et vous voyez comment Barbet d'Aurevilly le croque, comment il le définit. C'est un texte de 1854 qui est lu ici par Jean Bollery dans Une vie, une œuvre de Philippe Barthelet en novembre 91.
J'aime infiniment Monsieur de Custine, dont l'esprit et le talent se distinguent par un piquant infini qui ne l'abandonne jamais. Il est charmant et noble, et simple de manière comme le dernier des grands seigneurs. Il pratique l'hospitalité à l'anglaise, avec le naturel et l'abandon italien. Il cause comme un homme qui a connu Madame de Staël et qui a gardé les parfums de cette rose de feu de la causerie. C'est l'arbre à fruits de l'anecdote. On le secoue, il tombe en traçant des courbes divines. Il faut le voir au dessert, tirant toute l'Europe, personne par personne, de sa poche et la déballant sur la table autour de laquelle nous buvons dans des coupes de formes antiques rapportées d'Italie.
Pierre Nora parle de lui en disant qu'il est un triple exilé, exilé par rapport à sa jeunesse antirévolutionnaire, par rapport au monde littéraire où il ne réussit pas tout de suite et par rapport au régime qui va être celui de Louis-Philippe. Et puis en plus, il est exilé par le fait qu'il est homosexuel et que dans ce monde intolérant, la chose est aussi une sorte de handicap social.
Et oui, il y a eu le fameux scandale en 1824. Astolphe de Custine a été retrouvé à Saint-Denis, roué de coups, nu dans les rues.
C'est presque Pasolini déjà.
Exactement. Et on a effectivement compris qu'il avait donné rendez-vous à un soldat. Mais malheureusement, il est très difficile de parler de cette affaire qui a tant fait parler et qui a justement fermé les portes à Custine d'un certain monde, celui du Faubourg Saint-Germain, parce qu'on n'a finalement pas beaucoup de traces. Quant à son homosexualité, tout le monde le savait, mais il n'en parle jamais. Il y a une sorte de pudeur qui relève d'une pudeur aristocratique et puis d'une certaine discrétion, d'un certain secret chez Custine, il n'en parle jamais.
Il vivait en couple tout de même avec
oui,
un garçon.
Pendant 30 ans, Sainte-Barbe, Édouard de Sainte-Barbe, qui sera d'ailleurs son légataire universel. Et même dans sa correspondance, il dit à son amie Sophie Guay qu'il y a un secret qu'il, même à elle, ne pourrait pas confier. Donc même le lieu de la correspondance n'est pas celui de la révélation, c'est sa vie. Et certains seront mal à l'aise avec ce qu'ils appelleront un vice, particulièrement après sa mort où les mauvaises langues vont beaucoup parler.
Et on peut dire déjà que les Russes qui seront mécontents de ces lettres en profiteront pour expliquer que ce dévergondage lui a brouillé le jugement.
Absolument, que pourquoi lire quelqu'un d'aussi vicieux qui a une vie morale aussi répréhensible. Mais justement, on entendait Barbet d'Aurevilly, c'est l'un des seuls qui a su voir Custine sans juger cette homosexualité.
Alors, le voyage, c'est pas le premier voyage qu'il fait.
Non, il voyage très jeune et d'ailleurs, il dit que c'est une manie le voyage. Il adore le voyage. Il voyage avec sa mère. Il voyage en 1812 en Italie, juste avant en Suisse. Il va faire un voyage en Calabre avec l'archéologue Millien, avec le peintre Franz Ludwig Cattell. Puis, il va voyager en Angleterre en 1822. Ces voyages-là feront l'objet des mémoires et voyages qu'il publie en 1830. Puis l'Espagne, sous Ferdinand VII.
L'Espagne qui est redevenue conservatrice après 1815.
Et il sera déçu aussi de l'Espagne. Et puis bien sûr, celui qui nous intéresse le plus, puisqu'il conserve une actualité qui n'est absolument pas périmée, c'est la Russie en 1839, publié en 1843.
Et c'est à cet ouvrage, naturellement, que nous allons nous consacrer principalement pendant cette conversation. Samantha Caretti, quelle est l'origine de ce voyage? Pourquoi part-il?
Il y a plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est cet amour des voyages. Une autre raison qui serait pour rendre un service à un ami polonais, Ignaz Gourovski, qui voulait récupérer ses domaines. Et puis, d'autres raisons, plutôt d'ordre philosophique et politique, ce serait donc de découvrir une sorte de contre-modèle à ce qu'il appelle le despotisme né de l'égalité universelle, qui est proposé notamment par Tocqueville. On dit souvent qu'il serait le pendant de Tocqueville pour la Russie. Et une autre raison aussi serait de trouver, ce qu'il ne trouvera pas, un autre modèle, un modèle théocratique plutôt, c'est celui-ci qui l'intéresse, et peut-être de trouver une utopie légitimiste qui marcherait.
Contre le régime de Louis-Philippe qu'il est entièrement fait pour détester.
Absolument.
Je m'arrête un instant sur cette comparaison avec Tocqueville, parce qu'il est notable que La démocratie en Amérique, le premier tome, est paru très peu de temps avant, en 1835. Et Tocqueville lui-même fait déjà la comparaison entre les États-Unis et la Russie, puisqu'il dit... que le point de départ est différent, leurs voies sont diverses, néanmoins chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans les mains les destinées de la moitié du monde. Et au fond, cette conclusion a piqué Custine, il a eu l'envie de vérifier cela. C'était un des éléments, c'était un aiguillon.
Absolument, et c'est vrai que même bien avant, en 1814, lors du congrès de Vienne, Custine est fasciné par la puissance de la Russie. Mais lui, ce qui lui déplaît dans cette Amérique, c'est que ce n'est pas un régime d'ordre, de stabilité autocratique, et c'est cela qu'il cherche. Parce que pour lui, le désordre serait revenir à la Révolution, et ce n'est pas ce qu'il désire.
Tout en souhaitant devenir le Tocqueville de la Russie, comme il le dit lui-même, cet empire colossal que je vois se lever tout à coup devant moi à l'orient de l'Europe, de cette Europe où les sociétés souffrent de l'appauvrissement de toute autorité reconnue et qui me fait l'effet d'une résurrection. Une résurrection, ça c'est le rêve avant de partir.
Et oui, et justement l'une des particularités du récit de voyage de Custine, qui en fait un récit de voyage particulier, c'est que c'est un récit de la déception, alors que souvent on va y trouver ce qu'on y cherchait. Et finalement, il revient en se disant « Oh, un petit peu de désordre, ce n'est pas si mal. »
Ça a son charme.
Oui.
Il a un souci de politique, naturellement. Samantha Caretti est notre Custine, votre Custine, lorsqu'il s'apprête à partir pour la Russie. Mais c'est aussi une ambition littéraire. Et je voudrais vous faire entendre à cet égard une controverse avec Balzac, parce qu'il explique que un écrivain bien né ne doit pas se préoccuper de gagner de l'argent, ce qui est évidemment dans le cas de Balzac, qui lui s'échine à vivre dans les conditions que nous savons, grâce à quoi nous avons la Comédie humaine, ce qui déplaît à Balzac. Écoutez ce que dit l'un puis l'autre.
Pendant tout le XVIIIe siècle, je ne vois guère en France que Rousseau, qui est rendu témoignage par ses actes autant que par ses paroles à la grandeur du sacerdoce littéraire. Au lieu de vivre de ses écrits, de vendre ses pensées, il copiait de la musique et ce trafic fournissait à ses besoins. Il y a loin de la dignité d'action du pauvre Rousseau à la pompeuse fortune littéraire des spéculateurs en philanthropie, Voltaire et son écho lointain, Beaumarchais. Ces entrepreneurs de livres, ces auteurs libraires, ont fait de notre littérature une métairie, aussi lucrative mais aussi poudreuse, aussi crottée qu'un champ de betterave ou de colza. Tant que les œuvres de la pensée arriveront à leur rang sur la liste des produits de la société, comme une étoffe brodée à la vapeur ou comme un peloton de laine filé à la mécanique, je dirai, les hommes d'esprit n'ont pas trouvé leur sphère. Ils sont des marchands, menteur ainsi que tous les autres marchands, car tout commerce dégénère en mensonges. Mais les mensonges des marchands de vérité devraient être punis plus sévèrement que la fraude d'un poids ou d'une mesure. Les talents trompeurs volent non seulement la bourse, ils faussent l'intelligence.
Ce propos, naturellement, qui est extrait du voyage en Espagne, ne peut que heurter la morgue. Un Balzac, cette idée de la spéculation, des spéculateurs, cette idée des spéculateurs en philanthropie, cette idée des spéculateurs en philanthropie, forcément, Balzac regimbe.
Cette page dithyrambique eût été mieux venue sous toute autre plume que celle de Monsieur le Marquis de Custine, à qui sa fortune héréditaire permet de dédaigner celle qu'il pourrait conquérir avec sa plume. Si Monsieur de Custine pouvait connaître, pendant une seule journée, la misère, et roulée dans les abîmes qu'elle ouvre sous les pieds à chaque pas, il admirerait, sans la discuter, la force de ceux qui peuvent surnager sans y périr, eux ou leurs vertus.
C'était des lectures de Jean Bollery et de Eric Heiss en 1991. Alors, suivons-le, Custine. Il part pour la Russie. À quelle date, comment ?
Il part pour la Russie et il va en découvrir à la fois toutes les apparences, mais aussi toutes les coulisses, aussi affreuses soient-elles. D'ailleurs, on a souvent retenu son dégoût pour les punaises, parce qu'effectivement, il n'est pas habitué à ce confort de vie. Et il arrive dans des conditions qui sont parfois assez difficiles.
Il dit d'ailleurs qu'il voudrait mieux voyager l'hiver parce qu'on dissimule davantage cette pauvreté, cette misère. On n'est pas obligé de mettre les pieds des lits dans des bacs d'eau pour empêcher que ces petits animaux-là viennent vous envahir.
Et oui, et puis c'est toujours une façon pour même le climat de cacher la réalité et la vérité de la Russie.
Il est allé surtout dans les villes d'ailleurs, plus que dans la campagne.
Oui, et puis finalement, son voyage reste limité et c'est aux villes qu'il s'intéresse plus particulièrement, Pétersbourg et Moscou, qu'il trouve très différentes, l'une qui ressemble à l'Occident et l'autre qui l'intéresse davantage au départ, l'Orient, mais Moscou le décevra tout de même.
Nous avons entendu tout à l'heure sa description du Kremlin. Une chose le frappe et qui peut-être pourra frapper aussi les voyageurs du XXe siècle, c'est le fait qu'on les accompagne avec beaucoup de considération, mais que c'est une façon de les espionner, ces voyageurs. Écoutez.
Pour entrer en Russie, il faut déposer avec votre passeport votre libre arbitre à la frontière. Voulez-vous voir les curiosités d'un palais ? On vous donnera un chambellan qui vous en fera les honneurs du haut en bas et vous forcera par sa présence à ne voir que de son point de vue et à tout admirer sans choix. Voulez-vous parcourir un camp qui n'a d'autre intérêt pour vous que le site des baraques ? L'aspect pittoresque des uniformes, la beauté des chevaux, la tenue d'un soldat sous la tente ? Un officier, quelquefois un général, vous accompagnera. Un hôpital, le médecin en chef vous escortera. Une forteresse, le gouverneur vous la montrera, ou plutôt vous la cachera poliment. Une école, un établissement public quelconque, le directeur, l'inspecteur sera prévenu de votre visite. Vous le trouverez sous les arbres. Il résulte de ce cérémonial oriental que pour ne point passer votre temps à faire le métier de demander des permissions, vous renoncez à voir bien des choses. On ne vous refuse rien, mais on vous accompagne partout. La politesse devient ici un moyen de surveillance.
Ce texte est lu par Vincent Lubkoff dans l'émission L'échappée belle de Pascal Lismonde, en date du 13 décembre 1981. C'est sa première déception, peut-être, la manière dont on le suit en l'empêchant d'aller où il veut librement.
Dès qu'il est sur le bateau, il sent qu'il ne peut pas tout dire. Il sent qu'on est méfiant, que les Russes sont extrêmement méfiants. Il y a une sorte d'excessive inquiétude. Ils ont peur qu'on découvre les coulisses, hein, puisque la métaphore du théâtre est très présente lorsqu'il parle de la Russie. La Russie est un théâtre des apparences, un royaume des façades, selon son expression. Et donc, même lui, en tant que voyageur, subit cette surveillance permanente, cette inquisition, et s'en effraie, mais essaye de donner une chance tout de même à la Russie.
Néanmoins, il va déplorer ce qu'il appelle l'uniformité. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, pour reprendre cette fameuse formule. Il ne cache pas un certain ennui de ce fait, une sorte de répétition. Le décor du paysage, des villes.
C'est dans une lettre à Victor Hugo qu'il l'appelle l'empire de l'uniformité. Et c'est vrai que cette uniformité, il la sent partout. Dans les paysages, dans les villes, notamment lorsqu'il décrit Saint-Pétersbourg, une ville triste, morne, dans les forêts, partout. Et même les Russes.
C'est un empire despotique. Il avait rêvé d'avoir une sorte de théocratie vivante quand il était en France, il va découvrir tous les inconvénients de l'autorité du tsar, un peu écrasante, non ?
Oui, et il voit que c'est un État où règne la police permanente, la loi de l'arbitraire, la corruption, la violence. En 3 mois, il arrive à sentir tout cela par ce qu'on lui dit, par ce qu'on ne lui dit pas. aussi. Et ce despotisme l'effraie absolument, et pourtant, il n'en éprouve pas moins une certaine fascination pour le tsar, au départ. Il a du mal à se départir de cette fascination.
Il est bien reçu par lui, d'ailleurs.
Et oui, et c'est ce qui le gênera. Il dit, mais puis-je publier alors que j'ai été si bien reçu par le tsar et par sa cour.
Il surmontera d'ailleurs sa gêne. Il y a un fameux passage où il se moque de la manière dont le tsar porte sa ceinture en faisant ressortir son ventre. Ça ne sera pas du tout apprécié à Saint-Pétersbourg. Et ce despotisme prend quelle forme ? Il y a une surveillance policière, vous en disiez un mot, obsédante ?
Obsédante, la peur qu'il pressent aussi chez les Russes, cette cruauté aussi, puisqu'il voit le systématisme de l'emprisonnement, voire de l'assassinat, alors que tout est caché derrière des apparences.
Un des thèmes centraux, Samantha Caretti, de cet ouvrage de Custine, c'est que tout en étant fondamentalement différent, non seulement du rêve qu'il avait eu de la théocratie, mais de l'Europe, la Russie, notamment du côté de la cour, est marqué par un mimétisme qui le trouble.
Et oui, et de la même façon que finalement rien n'est vrai en Russie, rien n'est vraiment naturel, puisque tout n'est qu'imitation. Et il a cette phrase dans une lettre à Victor Hugo où il dit que les Russes singent tout. Ils imitent l'Europe, et d'ailleurs ils l'imitent mal, notamment la conversation, qui est une des particularités françaises que Custine admire le plus.
Les salons.
Les salons, hein, il est l'héritier du temps de Madame de Staël. Et ce qu'il voit dans cette imitation, c'est à la fois l'architecture par rapport à Saint-Pétersbourg. Il dit que c'est une parodie de la Grèce et de l'Italie, moins le marbre et le soleil. Et pas seulement l'architecture, la société qu'il trouve n'être que finalement Paris ou rien du tout. Il n'entend parler que des mêmes personnes qu'il connaît déjà en France. Et il le dit, voilà comme on est russe en Russie, sans être russe. Et c'est cela qu'il reproche. Et même Pouchkine, alors c'est l'une des déceptions, il aurait manqué le génie de Pouchkine. Il dit, leur Pouchkine, même trop vanté, n'est qu'un imitateur de Byron. On pourrait peut-être revenir sur cette assertion. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que chez Custine, il y a une volonté de comparer. Et dans la comparaison, il voit que la Russie n'est qu'une humble ou simple imitatrice.
On est sensible, en le lisant, à l'accent qu'il met sur le mensonge. Car au fond, il est arrivé avec l'espoir de dire la vérité de la Russie et il découvre le monde du mensonge. Écoutez donc cet autre extrait de son œuvre, La soumission au despotisme par le mensonge. C'est une lecture de Jean Bollery dans Une vie, une œuvre de Philippe Barthelet en novembre 91.
À Pétersbourg, mentir, c'est faire acte de bon citoyen. Dire la vérité, même sur les choses les plus indifférentes en apparence, c'est conspirer. Vous perdrez la faveur de l'empereur si vous avouez qu'il est enrhumé du cerveau. Et vos amis, au lieu de vous plaindre, diront « Il faut convenir qu'il a été bien imprudent. » Le mensonge. Voilà le repos, le bon ordre, l'ami de la Constitution. Voilà le vrai patriote. La Russie est l'empire des catalogues. À lire comme collection d'étiquettes, c'est superbe. Mais gardez-vous d'aller plus loin que les titres. Si vous ouvrez le livre, vous n'y trouverez rien de ce qu'il annonce. Tous les chapitres sont indiqués, mais tous sont à faire. Combien de forêts ne sont que des marécages où vous ne couperiez pas un fagot ? Les régiments éloignés sont des cadres où il n'y a pas un homme. Les villes, les routes sont en projet. La nation elle-même n'est encore qu'une affiche placardée sur l'Europe, dupe d'une imprudente fiction diplomatique. Je n'ai trouvé ici de vie propre qu'à l'empereur et de naturel qu'à la cour. La Russie est un malade qu'on traite par le poison. Toutefois, ce qui me surprend, ce n'est pas qu'un homme, nourri dans l'idolâtrie de lui-même, un homme qualifié de tout-puissant par 60 millions d'hommes ou de presque hommes, entreprennent et mettent à fin de telles choses, c'est que, parmi les voix qui racontent ces choses à la gloire de cet homme unique, pas une seule ne se sépare du cœur pour réclamer en faveur de l'humanité contre les miracles de l'autocratie. On peut dire des Russes, grands et petits, qu'ils sont ivre d'esclavage.
Ivre d'esclavage. Évidemment, cette formule a beaucoup frappé au moment de la réception du livre en France.
Je pense que c'est ce qui effraie au fond le plus Custine, c'est cette sorte de servitude volontaire, puisqu'il pressent la soif de domination non seulement chez le tsar, mais aussi chez ce peuple russe, avide de conquête et donc capable de tout accepter pour son pays.
Il parle d'une population d'automates. Cette population d'automates ressemble à la moitié d'une partie d'échecs, car un seul homme, le tsar, fait jouer toutes les pièces, et l'adversaire invisible, c'est l'humanité.
Ce qui le gêne particulièrement, c'est dans cette servitude volontaire, le fait que finalement plus personne n'agit, il n'y a plus de liberté. Il le dit lui-même, converser, c'est conspirer, penser, c'est se révolter. Et que la pensée, finalement, c'est un crime, c'est un malheur. Donc, interdiction de penser, interdiction d'être, la liberté n'est plus possible. Et finalement, le seul moyen pour répondre à cette souffrance pour les habitants, ils vont jusqu'à l'anarchie morale et l'excès, dans même l'ivresse, le libertinage, pour essayer d'échapper à cette domination suprême.
Et puis, naturellement, ils considèrent, dans un même mouvement, ce que sera, ce qu'est déjà, ce que sont les relations entre la Russie et l'Europe occidentale. Ça le préoccupe beaucoup. Et c'est là peut-être qu'on trouve certains accents prophétiques qu'aujourd'hui on aime à mettre en lumière. Il écrit « Lorsque notre démocratie cosmopolite, il ne l'aime pas, portant ses derniers fruits, aura fait de la guerre une chose odieuse à des populations entières, lorsque les nations soi-disant civilisées de la Terre auront achevé de s'énerver dans leur débauche politique et que de chute en chute, elles seront tombées dans le sommeil au-dedans et dans le mépris au-dehors, toute alliance étant reconnue impossible avec ces sociétés évanouies dans l'égoïsme. » On retrouve là sa détestation du régime politique de la France qui est la sienne. « Les écluses du Nord se lèveront de nouveau sur nous. Alors nous subirons une dernière invasion, non plus des barbares ignorants, mais de maîtres rusés, avisés, plus avisés que nous, car ils auront appris de nos propres excès comment on peut et comment l'on doit nous gouverner. » Je n'ai pas besoin d'insister sur le motif pour lequel j'ai lu cette citation un peu longue.
Et oui, loin de rentrer finalement rassuré chez lui, Custine pressent cette toute-puissance de la Russie, dont il ne croit pas du tout le sommeil éternel, et il craint pour l'Europe. Et c'est à ce titre, effectivement, qu'on a vu en lui un génie visionnaire. La Russie serait une sorte de prédatrice qui serait prête à tout pour conquérir. Et si l'Europe est en dissension, tout est possible.
Il est parti en y cherchant un modèle et il revient en ayant considéré une menace.
Et oui, il dit finalement, en étant allé en Russie, on se sent bien partout ailleurs dans le monde.
Oui, le livre est toujours parcouru par cette tension, c'est-à-dire ce qu'il avait attendu de la Russie et ce qu'il y a trouvé. Il écrit quelque part « J'allais en Russie pour y chercher des arguments contre le gouvernement représentatif. J'en revenais partisan des constitutions. » Un choc psychologique pour lui.
C'est un choc psychologique, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il revient partisan de cette monarchie Louis-Philippe. Mais il reconnaît que si en France, et c'est ce qu'il écrit, la tyrannie révolutionnaire est un mal de transition, en Russie, la tyrannie du despotisme est une révolution permanente. Et c'est à ce titre que la constitution lui paraît peut-être nécessaire.
Ce qui est au fond un des aspects centraux, me semble-t-il, Samantha Caretti, de l'analyse de Custine, c'est que la nation consent à l'oppression grâce à une soif de domination qui est largement partagée en direction du reste du monde. Cette nation essentiellement conquérante est avide à force de privation et l'expie d'avance chez elle par une soumission avilissante l'espoir d'exercer la tyrannie chez les autres.
Cette acceptation lui semble absolument incompréhensible. Et je pense que c'est l'objet de sa surprise et peut-être même de ce choc qu'il a éprouvé en allant en Russie. C'est de voir que dans toutes les classes sociales, partant des nobles jusqu'aux esclaves, il y a...
Les esclaves, les serfs.
Il y a cette acceptation de l'esclavage, hein. On parlait de l'ivresse de l'esclavage, mais c'est cela, parce qu'ils veulent la conquête partout, en tout point de la société.
Et donc de l'extérieur, et donc l'idée qu'ils vont risquer de se répandre vers l'Occident.
Et oui, c'est pour cela que finalement tout le monde est un petit peu complice lorsqu'un étranger arrive sur cette terre du mensonge, de l'hypocrisie, puisqu'ils arrivent à garder ces apparences-là parce que c'est dans l'intérêt de la Russie.
Il insiste beaucoup sur le militarisme aussi.
Oui, l'expansion militaire. Il voit bien que dans la Russie, la puissance militaire est considérée comme une force. Et il craint, Custine, que la France ne soit pas à la hauteur de cette puissance militaire. Eux ont bien compris à quel point elle pouvait être essentielle dans la conquête du monde.
Et c'est la thématique que l'on retrouve dans le texte que voici, qui est lu par Jean-Pierre Leroux dans une émission de Philippe Levillain, Les Lundis de l'Histoire, en novembre 1992.
Si l'ambition désordonnée dessèche le cœur de l'homme, elle peut bien aussi tarir la pensée, égarer le jugement d'une nation au point de lui faire sacrifier sa liberté à la victoire. Sans cette arrière-pensée, avouée ou non, et à laquelle bien des hommes obéissent peut-être à leur insu, l'histoire de Russie me paraîtrait une énigme inexplicable. Ici s'élève une question capitale. La pensée conquérante, qui est la vie secrète de la Russie, est-elle un leurre propre à séduire plus ou moins longtemps des populations grossières, ou bien doit-elle un jour se réaliser ?
Alors voilà, Samantha Caretti, nous n'allons pas échapper, bien sûr, nous ne le souhaitons pas, à une réflexion sur l'actualité de Custine, qui explique que très régulièrement, il a ressurgi au centre de l'attention, qu'il a été réédité de toutes sortes de façons avec des préfaces variables.
Oui, alors l'histoire de la réception de la Russie en 1839 est tout aussi fascinante que le récit lui-même, puisqu'il exprime justement ce rapport qu'ont les Français, qu'a l'Europe vis-à-vis de la Russie. Et à chaque fois qu'il s'agit de penser ces conflits-là, l'ouvrage revient. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que cet ouvrage a fait sensation de son temps. C'est le seul d'ailleurs qui ait fait sensation parmi les ouvrages de Custine. Il a très vite été réédité.
Ces quatre volumes ont connu une fortune exceptionnelle. Vous dites qu'ils ont été tirés à près de 200 000 exemplaires, ce qui est un best-seller formidable, notamment pour l'époque.
Absolument. C'est ce qui fait de Custine, enfin, l'écrivain reconnu comme il désirait l'être. C'est la Russie en 1839 qui lui offre cette possibilité.
À 53 ans, quand la gloire, en tout cas la notoriété, tant recherché, tant espéré, le rejoint.
Et oui, c'est une gloire de la maturité, mais c'est aussi ce qui posera peut-être problème dans sa réception, c'est-à-dire qu'on n'en fera plus que l'auteur de La Russie en 1839, et il est bien sûr un auteur tout aussi important pour ses romans. Mais pour ce qui concerne La Russie en 1839, rappelons qu'il y a eu deux éditions la même année, qu'il y en aura au moment de la guerre de Crimée en 1855, et cet ouvrage va séparer le public. Il y aura les russophiles, il y aura les russophobes, à la fois en France, en Allemagne, en Russie. C'est principalement ces pays-là qui vont réagir à cet ouvrage. Et il va mesurer à quel point il y a ce côté visionnaire, puisque dès 1854, un dramaturge qui s'appelle Amédée Pommier lui dit qu'il a tout senti, tout prédit, tout prévu. Et même, on peut aller plus loin, c'est effectivement ce génie visionnaire-là se retrouve au moment de l'URSS. Mais avant cela, il faut rappeler que la Russie n'a pas voulu laisser les choses ainsi.
Alors, Samantha Caretti, quelle est la contre-attaque du tsar et des siens ?
Eh bien, il y a trois stratégies. La première serait de réfuter, et réfuter en français, hein, puisque c'est un ouvrage français. Et puis, dans la haute noblesse, on parle français.
C'est là qu'on trouve votre Tolstoï, enfin pas le grand.
Oui, alors pas Léon, mais Jacques Tolstoï, agent secret de la police russe, et qui, pour attaquer Custine, va choisir de s'en prendre, bien sûr, à ses vices ignobles et à ses honteuses turpitudes. Je cite « Je sais que rien ne le blessera autant que les allusions à ses goûts obscènes. On m'a assuré qu'il était fort sensible à l'endroit de sa pédérastie. » Et donc, par ce témoignage-là, Jacques Tolstoï espère-t-il susciter la méfiance de la société qui est encore suffisamment mal à l'aise vis-à-vis de la question de l'homosexualité. Et finalement, ce serait faire passer l'ouvrage de Custine pour un scandale qui n'aurait que pour objectif de cacher un autre scandale. C'est l'idée qu'elle cherche à mettre en évidence Jacques Tolstoï.
Ça n'a pas marché.
Non, ça n'a pas marché. Et il y aura donc une deuxième stratégie, ce serait de faire réfuter. Faire réfuter, mais par qui ? Sergueï Ouvarov, le ministre de l'Instruction publique, se dit que la bonne idée serait qu'une célébrité contemporaine puisse prendre en charge cette contre-attaque. Il pense un moment à Balzac, nous y revenons. Qui, au vu de la précarité de sa situation et sa liaison avec la comtesse Anska, citoyenne russe, aurait donc bien envie peut-être de se prêter à l'exercice, surtout s'il y a quelques récompenses financières agréables. Mais lorsque Balzac vient en Russie, on se doute qu'il peut y avoir manigance du côté du pouvoir. Donc on laisse tomber ce projet. Et enfin, troisième stratégie, le silence. Et c'est peut-être davantage ce qui va être privilégié parce que ce qui aura été publié va même finir par être interdit. C'est notamment le cas de l'examen de Gretsch. On préfère faire taire pour oublier cet ouvrage.
Parce qu'au fond, il arrive qu'ils en ont conscience que parler d'un ouvrage pour le réfuter, c'est aussi le mettre en gloire.
Exactement, et remettre en lumière et peut-être susciter des oppositions.
Dès 1917, on fait un sort en France et ailleurs à cette formule, ces formules fameuses de Custine. La Russie est une chaudière d'eau bouillante, bien fermée, mais placée sur un feu qui devient toujours plus ardent. Je crains l'explosion. Bien sûr, au moment de la révolution bolchevique, cela a été beaucoup cité en Occident.
Oui, on a vu Custine un prophète qui aurait annoncé cette révolution de 1917 qui aurait donné lieu au régime soviétique. Et c'est vrai que c'est toujours ce qui est cette citation qui revient parce qu'elle annonce toujours que la Russie est dans une perpétuelle attente que les circonstances se prêtent à son explosion.
Et cela a été compris dès son temps ?
Au XIXe siècle, oui, on a effectivement vu tout l'aspect visionnaire, mais c'est particulièrement au moment de l'URSS que cet ouvrage a trouvé son écho particulier. Alors, il faut dire aussi, et certains l'ont mentionné, qu'on a reproché à Custine d'avoir quelque peu caricaturé la Russie de son temps. Mais précisément parce qu'il y avait une sorte de caricature, il était juste, il devenait encore plus exact au moment de l'URSS. Donc caricatural peut-être au XIXe siècle, mais juste à présent en URSS.
On revient à sa propre formule, j'ai mal vu mais j'ai bien deviné.
Oui, et il le disait même à Victor Hugo qu'il avait craint de ne pas avoir bien compris. Il dit « Je reviens et je ne rapporte que des problèmes ». Alors, il dit à Victor Hugo qu'il espère qu'il lui trouvera des solutions. Mais, en tout cas, Custine, lui, formulera des hypothèses qui iront bien au-delà de son temps.
Alors, d'un bond, si vous voulez bien, Samantha Caretti, arrivons au temps de la guerre froide, où naturellement, Custine va retrouver un lustre qui n'était pas effacé, mais qui était un peu oublié. Je suis frappé par ce qu'en a écrit, par exemple, ce grand diplomate de la guerre froide qui a été George Kennan.
George Kennan, donc un diplomate américain qui a réédité la Russie, alors pas de façon intégrale comme beaucoup de rééditions à l'époque, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que au départ, Staline considère qu'une réédition de Custine n'était pas une si mauvaise idée parce que ça accusait le régime tsariste. Et puis très vite, il sent qu'il y a des échos possibles avec son régime. Donc, très vite, finalement, on empêchera la publication de cet ouvrage.
C'est une sorte d'aveu.
Certainement, certainement. Et ce qui est mis en évidence dans ce rapprochement, cet écho, c'est le fait qu'il y a une fascination pour le monstrueux. Comme Ivan le Terrible autrefois, comme du temps du tsar, et toujours la figure autoritaire est une source, un objet de fascination.
Le monstre est une expression de Custine lui-même.
Oui. Il y a toujours ce partage entre l'éblouissement et la crainte effrénée. Il le dit lui-même, que Custine, dès 1814, que l'empereur de Russie était un homme admirable. Donc on admire, mais en même temps, on craint. Et c'est cela aussi que George Kennan met en évidence. Donc c'est toujours la ligne antidespotique qui revient. Et c'est toujours cette idée de la tyrannie qui est présente, tout comme au temps des tsars.
D'où des traductions nombreuses et qui ont beaucoup de succès aux États-Unis d'Amérique.
Oui, aussi en France, il faut le dire. En Russie, il y aura des ouvrages, mais qui vont circuler, bien sûr, sous le manteau.
Alors, si on se rapproche de Poutine d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de faire l'économie de ce genre de rapprochement. On l'attendait même. Les commentateurs qui relisent Poutine sont sensibles autant à faire une énumération. Un certain nombre de points qu'avait déjà évoqué Custine, je pense... l'ambition de la gloire par la quête de la puissance et la volonté de conquête. Je pense à la fascination pour la figure d'autorité qu'incarne Poutine. Et on retrouve certains traits de ses prédécesseurs, notamment la maîtrise de l'émotion, la dureté, l'intensification du rôle de l'armée dans le pays, l'habitude de l'espionnage, ô combien, la mise à mal de la liberté de la presse, la dissimulation des faits répréhensibles, la corruption, le pillage, etc. Dénoncé par Navalny... avant et pendant sa prison, et puis la réduction au silence des opposants par divers moyens, le poison, l'assassinat.
Et oui, toute la question que se posent les médias aujourd'hui, c'est est-ce que la Russie de Custine n'aurait pas annoncé un petit peu la Russie de Poutine, jouant d'ailleurs sur cette rime terrible, Custine-Poutine. Et effectivement, ce qui est mis en évidence, c'est ce qu'on retrouvait déjà aussi au temps de l'URSS, parce qu'il faut rappeler que derrière l'ambition de Poutine, il y a une volonté de faire la synthèse entre le régime tsariste et le régime soviétique. Et c'est à cet égard que l'ouvrage de Custine retrouve son actualité brûlante, puisque Custine a évoqué la Russie tsariste. Puisque au temps de l'URSS, on a vu des échos, on a même trouvé qu'il était plus juste pour la Russie de l'URSS que pour la Russie de 1839.
Ça, donc, c'est Kennan dont nous parlions tout à l'heure et beaucoup d'autres. Oui,
oui, et d'ailleurs, c'est ce que Kennan disait, hein, que le récit de Custine est le meilleur de tous sur la Russie de Staline, un des meilleurs sur celle de Brejnev et de Kosygine. Et il dénonçait d'ailleurs, Kennan, le danger que cette Russie pouvait représenter pour le monde occidental. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le récit de Custine est le meilleur récit pour évoquer la Russie de Poutine? C'est toute la question. Alors, bien évidemment, il y a ces tentations-là. Il faut y céder un peu, mais pas y céder non plus d'une façon démesurée, puisqu'il y a tout de même une... nécessité de remettre dans son contexte, de remettre un ouvrage dans son contexte historique.
Juste modération de l'historienne.
Oui, et puis il est difficile, d'ailleurs Custine lui-même le disait, il est difficile de bien voir, il est difficile de bien sentir, et aujourd'hui, bien sûr qu'il y a la tentation de vouloir faire l'analyse de la Russie en temps réel, mais parfois il y a besoin du temps pour sentir s'il y a effectivement tous ces échos qui s'accomplissent. Et on l'a vu, hein, le récit de Custine paraîtra 4 ans après son voyage. Donc il y a la nécessité d'une mesure, la nécessité d'une analyse aussi approfondie que possible.
Eh bien, c'est celle que vous nous avez apportée très largement, et je trouve que c'est une conclusion tout à fait bienvenue. Merci beaucoup, Samantha Caretti, d'être venue à ce micro. Vous vous apprêtez, on s'en réjouit à l'avance, Samantha Caretti, de donner une édition de la correspondance complète de votre grand homme, de Custine.
Oui, c'est un projet qui avait déjà été souhaité par son biographe Julien-Frédéric Tarn, mais qui malheureusement n'avait pas pu voir le jour. Et donc, je reprends avec plaisir cette entreprise, et d'autant plus de plaisir que la correspondance de Custine est tout simplement passionnante, parce qu'il a parlé avec tous les plus grands de son temps, parce que ses lettres sont de véritables chefs-d'œuvre qui peuvent tout à fait faire concurrence à sa Russie en 1839.
Un grand épistolier. Ces œuvres commencent d'être publiées au Classique Garnier. En particulier, on trouve l'édition complète de La Russie en 1839. C'est une édition qui est due au talent et au labeur de Vera Milchina.
Oui, il faut préciser que Classique Garnier entreprend la publication des œuvres presque complètes de Custine. Déjà, Le Monde comme il est et tel, qui ont été éditées par Alex Lascar et Marie-Bénédicte Diethelm, c'est paru. Et on attend Mémoires et Voyages, L'Espagne sous Ferdinand VII et Aloïs. aussi.
Le livre que j'ai cité de Pierre Nora, ça, il a changé le titre d'ailleurs, il appelle ça « Lettres de Russie », est en fait une anthologie.
Oui, alors la question du titre est très importante aussi. Pourquoi ne plus garder la Russie en 1839? Il y a une volonté de montrer à quel point il y a une actualité de cet ouvrage, donc on dit « Lettres de Russie ». Ce qui a été enlevé, c'est tout ce qui pouvait plus appartenir au contexte historique, notamment les fameuses pages biographiques, à dimension beaucoup plus biographique de Custine. Donc « Lettres de Russie », c'est un titre qui fait disparaître le 19e siècle, 1839. Mais ça me semble une erreur, parce que même si Custine, au départ, avait envisagé d'intituler son ouvrage « Lettres de Russie », il voulait tout de même ajouter « en 1839 ». Il voulait qu'on se souvienne que c'était un témoignage de son temps.
On peut dire qu'il se lit très agréablement. Ce n'est pas l'austérité qu'on retrouve en abordant à cette œuvre.
Et oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait bien sûr d'autres récits de voyage sur la Russie. Alors pourquoi celui-ci est-il davantage resté? Il est certainement davantage resté pour son aspect visionnaire, mais aussi pour la qualité, le style de diamant d'Astolphe de Custine qui reste et qui fait de cet ouvrage une véritable œuvre littéraire, parce que ce qu'on met en évidence, c'est que c'est un essai historique, alors qu'avant toute chose, c'est une œuvre littéraire, c'est une œuvre d'imagination.
Vous évoquez les autres voyageurs, ils ont été nombreux. On a un extrait de leurs œuvres dans un livre qui est déjà ancien, de la prestigieuse collection Bouquins, chez Lafon. Claude de Grève avait donné un recueil qui s'appelait « Le voyage en Russie, anthologie des voyageurs français au XVIIIe et au XIXe siècle en 1990 », mais il est naturellement toujours accessible. Vous avez cité à juste titre Julien Frédéric Tarn, donc le biographe. Cette biographie a été publiée chez Fayard en 1985, « Le marquis de Custine ». Et puis, il y a aussi le travail de Francine Dominique Lichtenan, Adolphe de Custine, voyageur et philosophe, paru chez Champion en 1990. Vous l'avez utilisé, vous l'utilisez?
Absolument, puisque c'est une analyse très juste et très fine des récits de voyage d'Astolphe de Custine, et met en évidence aussi à quel point c'était un philosophe.
Et bien, la profusion de cette bibliographie témoigne de l'actualité de Custine, auquel nous avons consacré cette conversation.
Et on s'en réjouit.
Et je vous en sais gré, Samantha Caretti. Vous pourrez trouver une bibliographie encore plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission pour continuer de vérifier quelle est dans l'avenir l'actualité du marquis de Custine. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Colin Posnick-Gruel, avec la prise de son Yvan Turc, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel Clary Monac et Eva Karagatchev pour la documentation.